Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le libraire et l'actualité. Au programme, nos suggestions de lecture, fiction. Et sauver le couple. Bonne écoute.
Nos suggestions de lecture, fiction. Des propositions des libraires indépendants, parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Johnny Appleseed. Joshua Whitehead, traduction Ariane Desrochers, Mémoire d'encrier. Dans cette histoire de retour aux sources, on plonge dans la jeunesse de Johnny, travailleur du cybersexe à Winnipeg, qui retourne à l'occasion des funérailles de son beau-père dans la réserve qu'il a vu grandir. S'y confronteront souvenirs heureux ou honteux, démons et fées. Grâce à la langue directe et contemporaine de l'auteur, on s'attache à son personnage en quête d'amour, sentiment puissant dont il fait usage pour guérir de ses blessures. Le baiser de Nana Bush, Drew Hayden Taylor, traduction Eva Lavergne, prise de parole. On a craqué pour la magie et l'humour présents dans Le baiser de Nana Bush, roman où un bel étranger fait irruption à dos de moto dans une réserve Anishinaabe, faisant flancher le cœur de la chef au grand désespoir des autres membres de la communauté. Sa façon de manier le doux amer et le don de conteur de Drew Hayden Taylor font de cette histoire où art martial autochtone, raton laveur vengeur et baiser foudroyant se côtoient un roman puissant. Celui-ci a d'ailleurs été finaliste au prix du gouverneur général dans sa version originale anglaise. Peau d'ours, Carol Rose Daniels, traduction Sophie Cardinal Corriveau, XYZ. Voici l'histoire d'une quête identitaire, celle d'une femme qui, comme plus de 16 000 enfants autochtones, a été arrachée à sa famille pour être vendue à des Blancs. Celle qui a été adoptée par une famille ukrainienne et s'y est toujours sentie ostracisée, renouera avec sa culture, rendue à l'âge adulte. C'est aussi l'histoire d'une femme qui se bat dans un monde d'hommes, l'histoire de la force érigée contre les préjugés. C'était nos suggestions de lecture fiction des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Vous écoutez « Sauver le couple », un texte de Marie-Hélène Proulx, paru le 5 avril 2023 dans « L'actualité ». Environ une personne sur cinq vit une relation non monogame, consensuelle ou a déjà tenté l'affaire au moins une fois dans sa vie, révèlent quatre études américaines et canadiennes menées entre 2014 et 2020. Parmi ces arrangements, on trouve les unions amoureuses plurielles, comme le polyamour, les couples libertins qui ont des rapports sexuels de groupe et aussi les couples ouverts, qui se laisse la liberté d'avoir des aventures extra-conjugales, explique Félix Dussault, dont le doctorat en sociologie à l'UQAM porte sur ses modes relationnels. Toutes ces formes d'intimité partagent néanmoins un grand principe, la transparence à l'égard du ou des conjoints. Autrement dit, pas question d'aller voir ailleurs en catimini. Le chercheur croit que la détraditionnalisation actuelle des modèles d'union est une sorte de prise d'eux de la libération sexuelle amorcée dans les années 1960, dont certains combats étaient restés inachevés. Il y a 50 ans, L'exclusivité sexuelle était dénoncée par certaines féministes, notamment des anarchistes et des marxistes, qui y voyaient une tentative de domination du corps des femmes, explique-t-il. Le discours sur l'amour libre a été remisé pendant longtemps dans la même garde-robe que les pantalons à pattes d'éléphant, mais voilà qu'il refait surface. Les nouvelles générations se disent « Nos grands-parents avaient des relations longues, mais ne pouvaient pas expérimenter sur le plan sexuel, tandis que nos parents avaient plus de liberté, mais se sont séparés en grand nombre. Alors, elle est où, la solution ?» L'animatrice de camp scout n'est jamais bien loin avec la volubile Isabelle, 50 ans, qui vient d'inciter ses deux enfants, Charlotte et Émile, et ses deux chums, Éric et Ettore, à empiler des verres en plastique à l'aide de 6 cordes et d'un élastique. Pas le droit de toucher les gobelets avec ses mains. Autour de la table se trouve aussi Geneviève, avec qui Isabelle entretient une relation au-delà de l'amitié, et Fred, le chum de Geneviève. Tout le monde y va de sa stratégie pendant que la lasagne se réchauffe. « Je sais quel plat préparer quand je veux attirer toute ma gang pour souper », dit Isabelle, qui habite depuis 3 ans au centre-ville de Montréal avec Éric, Dixit, son partenaire de nid. Toute sa gang, c'est en fait une famille polyamoureuse constituée de plusieurs partenaires amoureux et ou sexuels qui vivent leurs relations au vu et au su de l'ensemble des personnes impliquées. Les clans polyamoureux ont divers modes de fonctionnement, mais disons, pour simplifier, que celui d'Isabelle est assez souple. Cette dernière a 3 partenaires, dont aucun n'est considéré comme plus important que les autres, même si elle habite avec Éric. Et tous ont beaucoup d'autres amours de leur côté, dont certains se fréquentent et s'apprécient. Par exemple, Fred connaît très bien le conjoint et les enfants de sa blonde Geneviève. « Je sais, ce n'est pas facile à suivre », admet Isabelle. D'autres membres de ce qu'ils appellent leur polycule préfèrent rester à l'écart de la mêlée. « On va défaire un mythe tout de suite », dit Éric, 52 ans. « Non, on ne fait pas d'orgie. » Ça arrive dans certaines familles polyamoureuses, mais c'est peu fréquent, estime le cofondateur de la page Facebook Polyamour Montréal, qui comptait 60 membres à ses débuts il y a 7 ans. Aujourd'hui, ils sont plus de 5 400. La sexualité n'est pas exclue entre certains membres de leur clan, mais la poutre porteuse, c'est leur engagement mutuel. S'accompagner à l'hôpital, prendre soin des enfants, partir en voyage, avoir des projets. On est des partenaires de vie unis par la confiance, explique Geneviève. Tous ont déjà goûté à la monogamie, certains pendant plus de 20 ans, mais ils se sentaient profondément brimés. Je n'y crois pas à la règle selon laquelle on doit s'abstenir de nouer d'autres relations significatives quand on est en couple, dit Éric. C'est le fun, tomber amoureux, apprendre à connaître de nouvelles personnes, se découvrir à travers elles. Ça me permet de développer un potentiel qui aurait été inexploité autrement. Attention toutefois. La non-monogamie consensuelle, que ce soit chez les polyamoureux ou les couples ouverts, n'est pas un ticket pour faire n'importe quoi avec n'importe qui, précise le doctorant Félix Dussault. Ces relations sont encadrées par une éthique très réfléchie, étayée dans de nombreux blogs et bouquins, dont « La salope éthique » des autrices américaines Janet Hardy et Dossie Heaston. Les ententes varient beaucoup en fonction des ménages, a-t-il constaté lors de ses entrevues de recherche. Par exemple, certains couples ont le droit d'avoir une seule aventure extra-conjugale par mois, non transférable au mois suivant si l'occasion ne s'est pas présentée. D'autres ne peuvent jamais revoir le même partenaire sexuel. Nous, on a établi une règle qui fait partie des fondements de notre relation. Interdit de flirter avec les amis monogames de l'un ou de l'autre, c'est aussi tabou que d'approcher un membre d'une de nos deux familles, explique Nicolas, 31 ans, en couple avec Audrey, également dans la jeune trentaine. Les fiancés, qui vivent depuis peu sous le même toit, sont à la fois polyamoureux et libertins. C'est-à-dire qu'ils ont chacun des amireux, des personnes avec qui ils entretiennent des rapports à mi-chemin entre l'amour et l'amitié, ainsi que des comètes, des amants et des maîtresses qu'ils fréquentent dans des clubs échangistes ou des orgies privées, notamment. Si cet arrangement hors norme leur apporte des joies multipliées, il vient aussi avec un gros travail sur soi pour déconstruire les élans de possessivité, de même qu'avec des balises claires pour ne pas s'infliger des chagrins. C'est surtout moi qui éprouvais des difficultés à gérer ma jalousie au début de la relation il y a un an et demi, avoue Audrey, une travailleuse de la santé arborant piercing et chevelure spectaculaire. J'avais peur que Nicolas s'éloigne de moi en se rapprochant d'une autre, mais on communique énormément et je sais maintenant que notre couple est solide. Je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Ils prévoient d'ailleurs se marier en présence de leurs partenaires respectifs. Cette ouverture dans la sphère intime est perçue comme un cadeau par certains, dont la sympathique bande de copains rencontrés au cégep du Vieux-Montréal un après-midi de février. De savoir qu'en 2023, je peux explorer ma sexualité et ma conception de l'amour sans risquer d'être réprimandé me rassure énormément. Je n'ose même pas imaginer à quel point j'aurais été malheureuse sans cette liberté, confie Roman, 17 ans, qui se décrit comme bisexuel et qui n'est pas fermé au polyamour à condition d'être avec les bonnes personnes, précise-t-elle. Cependant, tous ces choix donnent le vertige. Le bon choix d'identité sexuelle, le bon choix de type de relation, le bon choix de partenaire. Depuis quelque temps, j'apprends à lâcher prise, mais ça m'a créé beaucoup d'anxiété de ne pas être sûr de mon orientation sexuelle et de mon identité de genre, admet Alexane, une rouquine de 17 ans au teint de porcelaine. Idem pour son ami Marcelin, 18 ans, vêtu d'un chandail rose à capuchon où il est écrit « Je sais ce qui se passe, ta gueule ». Il y a eu des moments où il le savait moins, justement. Chaque fois que tu découvres une autre option, tu te dis « Est-ce que c'est plutôt ça ?» Pour l'instant, je me désigne comme « homo-romantique ». C'est-à-dire que je pourrais tomber amoureux d'un garçon sans avoir d'attirance sexuelle envers lui, mais heureusement, les étiquettes, ça se décolle. Bien que ce soit excitant de vivre sans les contraintes du passé, c'est aussi très épuisant, remarque la sociologue des émotions Valérie de Courville-Nicole, qui a analysé les effets de cette pression dans son livre « Anxiety in Middle Class America », Sociology of Emotional Insecurity in Late Modernity, paru en 2021 aux éditions Routledge, en anglais seulement. On a toujours peur de se tromper. Alors, c'est plus difficile d'accepter ce qu'on a. Et si je trouvais mieux ailleurs? À cela s'ajoute l'injonction de nouer une relation saine. Une expression maintenant répandue dans la culture populaire, note la professeure à l'Université Concordia. Cultiver son bien-être physique, mental et émotionnel est le grand idéal contemporain, et nos relations amoureuses n'échappent pas à ce dictat. Le partenaire moderne doit être bienveillant, accepter nos défauts, respecter nos limites, encourager notre développement personnel, nous apporter un sentiment de sécurité, être doué pour la communication. En somme, on doit être de plus en plus compétent pour réussir son union, et ça participe à l'immense anxiété de performance qui nous accable dans toutes les sphères. Si aujourd'hui, il est évident qu'il faut veiller à la santé de son couple à grand renfort de dévoilement émotionnel, d'écoute et de connaissance de soi et de l'autre. Ce n'était pas le cas autrefois, constate la sociologue de l'amour Chiara Piazzetti. On travaillait pour faire face aux crises, mais on ne travaillait pas son couple au sens thérapeutique du terme. Cette conception de l'intimité s'est lentement immiscée dans le discours populaire en Amérique du Nord avec l'arrivée de la Révolution tranquille et en particulier dans la foulée de l'augmentation des divorces pour incompatibilité à partir des années 1980. Ça a créé une sorte de panique morale. Il fallait comprendre comment éviter l'échec de la relation en partant de la norme qu'une relation réussie en est une qui dure toute la vie, explique la professeure à l'UQAM. À l'instar de presque tous les couples ayant accepté de me confier leur histoire dans les derniers mois, Maïté et Vincent, deux résidents de Gaspé ensemble depuis 18 ans, ont également fini par aboutir sur le canapé d'un psy au début de la pandémie. Le canal de communication entre eux s'était embrouillé et les conflits s'accumulaient. Ils ont consulté d'abord parce qu'ils tiennent l'un à l'autre, ainsi qu'à leur famille nucléaire de 3 enfants de 10 à 16 ans, mais aussi peut-être parce que leur couple fait partie d'une petite communauté soudée, constituée d'autres unions qui durent, et que les séparations ont des répercussions importantes sur le tissu social. Je ne pense pas que ça mette de la pression, mais ça nous influence quand même, au sens où on se dit « nos amis sont encore ensemble ». Nous aussi, on va passer au travers, explique Maïté. Vous écoutez « Sauver le couple », un texte de Marie-Hélène Proulx, paru le 5 février 2023 dans l'Actualité. Elle estime que tout le monde devrait avoir un thérapeute pas loin, parce que l'expérience leur a permis de mieux se comprendre mutuellement. Maïté est une fille d'action et de mouvement, témoigne Vincent. Du genre à partir de la Gaspésie en voilier pour se rendre jusqu'aux Açores ou à organiser en Amérique centrale un road trip en autobus d'un mois avec toute sa tribu. Ils en revenaient quand je leur ai parlé. Ma blonde ne finit pas les affaires pour le fun de les finir, mais pour le fun d'en faire d'autres, alors que de mon côté, je suis plus du type hamac, latence et réflexion. Les contraires s'attirent, mais ce n'est pas sans compromis. Je pense quand même qu'être en couple comporte de gros avantages, estime Maïté. Je suis faite pour être avec les autres, et ça comble une partie du vide qui m'habiterait peut-être si j'étais seule. Je me sens plus forte quand Vincent est là. Même si Maïté n'a pas eu à effectuer de triple saut arrière pour convaincre son chum de suivre une thérapie, c'est elle qui a entrepris la démarche. Les femmes ont souvent le rôle de maintenir la relation ou de la renégocier, montrent les études, par exemple en abordant ouvertement les sujets de chicane et en allant chercher de l'aide extérieure. Elles sont aussi plus attachées à l'idéal de l'exclusivité sexuelle et romantique, qu'elles soient hétéros ou de la communauté LGBTQ+, comme le confirme l'enquête MACLIC. Les inégalités persistantes sur le plan du partage des tâches domestiques et des soins aux enfants incitent de plus en plus de femmes à retarder la mise en couple ou à opter pour d'autres arrangements. Les filles ne sont pas naturellement plus attirées par l'amour, juge Chloé Dauphinet, une doctorante au département de sociologie de l'UQAM, qui s'intéresse à la remise en couple tardive dans les parcours de vie ainsi qu'au célibat des femmes. Selon moi, c'est surtout qu'elles sont conditionnées par la société à porter le fardeau du soin des autres, en plus d'être les principales cibles du lobby de la romance hétérosexuelle, encore présent dans les livres, les films et les chansons. Par contre, ce sont aussi elles qui, le plus souvent, sont des moteurs de changement dans le couple. En décidant d'opter pour la non-cohabitation, par exemple, remarque Chloé Dauphinet. En outre, Les femmes font preuve d'une plus grande autonomie que les hommes au sein des unions monogames. Elles font davantage d'activités sans leur conjoint et ressentent moins le besoin de partager les mêmes goûts et les mêmes valeurs, révèle l'enquête MACLIC. Les inégalités persistantes sur le plan du partage des tâches domestiques et des soins aux enfants incitent de plus en plus de femmes à retarder la mise en couple ou à opter pour d'autres arrangements. C'était d'ailleurs la prémisse de La Galère, remarque Chiara Piazzesi, qui a analysé les représentations de l'amour dans des productions culturelles. Cette télésérie québécoise diffusée à Radio-Canada de 2007 à 2013 mettait en scène quatre femmes ayant choisi d'emménager ensemble avec leurs gamins respectifs. Leur motivation était la suivante. Puisque la cohabitation est une source de grande frustration au sein des couples hétéros, pourquoi ne profiterait-elle pas uniquement des avantages du couple, comme la sexualité, sans s'encombrer de la gestion du quotidien? C'est justement le choix qu'a fait Aurore, une Montréalaise qui jure par tous les saints qu'elle ne fera plus jamais chaudron commun avec un amoureux. Et je ne dis pas ça parce que j'ai vécu des choses dures en couple, précise-t-elle, en sirotant un ballon de rouge par un après-midi de tempête hivernale. Elle garde d'ailleurs de tendres souvenirs du quotidien à deux avec son dernier partenaire, une relation qui a duré 7 ans. Toutefois, elle luttait contre elle-même, peinant à admettre son ennui. En fait, je suffoquais. Elle se dit maintenant pleinement heureuse en solo dans son appartement. Je fais l'étoile dans mon lit si ça me chante. Je décide de mes activités de la journée sans avoir à consulter personne. C'est un luxe de pouvoir assumer seule les dépenses pour se loger, bien sûr. De plus, elle a passé l'étape de fonder une famille. Mais quand je vois des gens dans une situation semblable à la mienne s'installer ensemble, je me dis, pourquoi? C'est un tue-l'amour. Depuis quelques années, Aurore pousse même sa réflexion plus loin, se demandant pourquoi l'amour romantique est si valorisé socialement. Je ne parle quasiment que de ça. Mes proches peuvent en témoigner, c'est épouvantable. Longtemps, elle a été une grande amoureuse de l'amour, mais aujourd'hui, l'idée de former un couple, même non cohabitant, lui pèse. En ce que cela implique d'engagement, de responsabilité, de gestion mutuelle des besoins. La quarantenaire aux yeux bleus piscine a un homme dans sa vie depuis 18 mois, une fréquentation non conventionnelle qui lui laisse pleine liberté, entre autres sur le plan sexuel. Elle profite aussi de ses amitiés qui sont au sommet de sa hiérarchie relationnelle. C'est magnifique le sentiment amoureux, sauf qu'à mon âge, je sais que ça se casse la gueule un an plus tard. Elle soupire, tourne la langue 7 fois dans sa bouche. En même temps, je me méfie de ce que je dis. Elle n'est pas du tout à l'abri d'une grande histoire comme dans les films, qui pourrait commencer dans 2 semaines, admet-elle. Mais pourquoi on a besoin de ça? D'où vient cette quête de la relation amoureuse? C'est la question à 1 000 $ à laquelle réfléchit Chiara Piazzesi. Après tout, d'autres formes d'intimité comblent aussi le besoin d'attachement des êtres humains, comme les amitiés et les relations familiales, souligne-t-elle. Néanmoins, le mythe de l'âme sœur qui nous était destinée et qui fait naître en nous des sentiments inexplicables persiste et signe, même s'il coexiste désormais aux côtés d'une vision plus partenariale des relations, fondée sur l'engagement et l'effort. Beaucoup de gens sont très heureux d'être en couple, malgré les défis et les embûches, parce que le fait de partager des projets de vie, des sentiments forts et ou une sexualité est une énorme source de gratification et de bien-être, affirme Chiara Piazzesi. Quand ça va bien. De plus en plus d'études avancent d'ailleurs que, quand ça va bien, avoir un partenaire amoureux est associé à une meilleure qualité de vie et à une plus grande longévité. Notre société est cynique, concurrentielle, destructrice pour l'individu, juge le français Jean-Claude Kaufmann. Il y a une fatigue terrible, constate-t-il, si bien que l'amour conjugal est devenu une sorte de besoin existentiel qui apporte du réconfort, de la réassurance, une caresse au quotidien. À ses yeux, cette aspiration est même plus forte que jamais. Après 35 ans à documenter l'amour et la vie de couple dans ses moindres détails, le sociologue se dit toujours impressionné par la capacité des gens à sortir d'eux-mêmes pour se replonger dans l'attitude amoureuse, en dépit de la quête d'autonomie individuelle qui les turlupine et des nombreux agacements du train-train familial. Les bas qui traînent par terre, les poils de barbe dans le lavabo, les ustensiles de cuisine rangés à la mauvaise place. Autant de petits coups de foudre à l'envers, illustre-t-il, qui peuvent donner des idées de meurtre pendant une demi-seconde. Et pourtant, les gens tentent de reconstruire le désir, l'engrenage positif vers l'autre. L'amour, c'est la grande utopie de notre époque. On vit dans un monde très, très dur. Et c'est vraiment ça qui nous sauve. C'était « Sauver le couple », un texte de Marie-Hélène Proulx, paru le 5 avril 2023 dans L'Actualité.
Pour entendre la suite de « Sauver le couple », veuillez rester à l'écoute puisque « On lit pour vous » continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.